Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Belair.
Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma
moto.
Je regarde bien Alex Zoule.
Avec l'attaque d'Andy Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché.
Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille d'intersaison des commissaires de course. Alors cette fois-ci, on a choisi un sujet un petit peu différent des équipes, c'est-à-dire que nos commissaires présents ce soir vont nous présenter leur top flop de la saison, mais aussi leur coup de gueule ou leur coup de gueule, enfin je perds mes mots. Enfin bref, avec moi ce soir, j'ai donc Thomas.
Salut à tous.
Grégory.
Salut à tous.
Et Greg avec notre accent marseillais.
Mais pas du tout, bonsoir à tous.
Mais pas du tout, il s'est retenu, il a fait tout ce qu'il fallait pour pas que ça s'entende trop. Alors Greg, justement, je vais commencer par toi. On va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule. Toi, je crois que ce qui t'a plu cette année, c'est vraiment l'événement majeur de la saison, c'est-à-dire le Tour de France.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est un Tour de France qui restera dans les mémoires pour pas mal de raisons. Donc j'aimerais bien y revenir parce que ça fait plusieurs années, de très longues années, qu'on s'ennuie un peu, que le vainqueur il semble déjà décidé à l'avance, qu'il n'y a plus beaucoup d'émotions. Et là, je trouve qu'on a eu cette année un Tour de France riche en émotions. Alors, je dis pas ça seulement, évidemment, parce que des Français comme Alaphilippe ou Thibaut Pinot se sont évidemment illustrés. Je pense qu'il y a des étapes qui resteront dans les mémoires. Hein. Le Tourmalet de Thibaut Pinot, je pense que ça restera dans les mémoires. Les victoires d'Alaphilippe aussi, ça restera dans les mémoires. Mais quand je parle d'émotion, je veux aussi qu'elles soient positives ou négatives. Je pense qu'on a tous vibré. Même négativement, quand il y a eu cette histoire avec la bordure où Thibaut Pinot perd du temps, avec son abandon alors que beaucoup y croyaient. Il faut savoir que c'est vrai que je suis peut-être le plus ancien ici, mais une victoire française sur le Tour de France, on attend ça de manière quasi désespérée depuis un moment. Donc là, forcément, on y a tous un peu cru. Et c'est vrai que c'est des émotions un petit peu nouvelles ou qu'on avait pour beaucoup, je pense, oublié cette manière de vivre le Tour. Ça fait plaisir de retrouver ça ou de goûter à ça peut-être pour certains.
C'est vrai qu'on a vécu, comme tu l'as dit, beaucoup d'émotions pendant ce Tour de France, je suis d'accord avec toi, mais tu as cité quelques épisodes, si tu devais en retenir un, Greg, ce serait lequel, celui qui t'a vraiment fourni le plus d'émotions pendant ces trois semaines de la Grande Boucle?
Je pense que la victoire au Tourmalet.
Ouais, ça serait ça, plus que l'abandon que tu retiendrais.
Ah, je l'aurais dit en positif, oui, bien sûr, on a retenu l'abandon, même si on a vu quelques échos un petit peu avant, donc c'est pas pareil.
Oui, c'est vrai.
Il y a eu quelques infos avant, donc j'ai été moins surpris. Mais oui, parce que y a un coup d'éclat. Enfin, c'est comme je dis, c'est quelque chose finalement qu'on attendait depuis un moment. C'était finalement quelque chose, on savait pas trop si est-ce que Thibaut Pinot était capable de le faire ou pas. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on attendait. Enfin, qui pour moi restera.
Alors Thomas, avant de passer à ton coup de cœur à toi, est-ce que tu as aussi été marqué toi par ce Tour de France? C'est quelque chose qui restera dans ta mémoire, tu penses?
C'est surtout la première fois depuis que je suis le Tour de France qui a eu autant de réussite côté français. J'ai pu voir aussi dans mon entourage, alors qu'ils sont pas forcément branchés cyclisme, qu'ils ont suivi le Tour de France cette année, justement pour Pinot, pour Alaphilippe. Et ouais, je pense qu'il y a une ambiance générale en France vraiment positive par rapport à ce Tour de France. J'ai peur que ça ne se reproduise pas les années prochaines, mais ça peut permettre au grand public de suivre encore plus le Tour de France à l'avenir.
Toi aussi, Grégory, t'as senti cette ambiance, cette atmosphère, ce truc qui s'est dégagé cette année et qu'on n'avait pas forcément vu les années d'avant?
Oui, c'est pareil. Ouais, moi, j'ai vraiment senti qu'il y avait un engouement populaire énorme. Il y avait surtout limite un stress parmi les suiveurs pour savoir si les Français allaient réussir à aller jusqu'au bout et éventuellement jouer la gagne du Tour de France, parce qu'on y a cru quand même. Et le final a été haletant. D'ailleurs, le final a été même perturbé sur les dernières étapes de montagne avec le gros orage de grêle qui a tout perturbé et qui a redessiné complètement le classement général. Au final, on sait pas tout à fait ce qui se serait passé, même si le plus fort a été couronné au bout du compte. Je pense que Bernal était imprenable.
Ouais, c'est également mon avis. Alors pour continuer sur les coups de cœur, justement, Thomas, toi, c'est un autre grand tour qui t'a marqué, notamment les performances des équipes locales.
Oui, c'est sur le Tour d'Espagne, donc la Vuelta, avec deux succès pour les équipes continentales professionnelles espagnoles, donc les équipes invitées sur ce grand tour. Avec des accessits de la Cararroal, donc des succès de la Murias et de la Burgos Beache. Mais surtout, ce que j'ai retenu et ce qui est positif pour le cyclisme espagnol, même si on peut nuancer, je vais nuancer juste après, c'est qu'elles ont fait beaucoup parler d'elles en Espagne. Notamment, elles ont touché le grand public. Pourtant, en Espagne, c'est plus, je trouve, un public de passionnés qui suit ce grand tour, même dans le pays. Et notamment avec le doublé assez miraculeux de la Burgos Beache, vu le niveau de l'équipe depuis qu'elle est en continental professionnel, c'était assez inespéré. Le succès de la Murias, qui a, pour la deuxième année consécutive, remporté une étape du Tour d'Espagne, bon, malheureusement pour elle, ça n'a pas permis à l'équipe de continuer les prochaines saisons. Mais j'ai pu voir via les réseaux sociaux, via beaucoup d'articles, que ces deux équipes, un peu moins la Cararroal, vu que la Cararroal n'a pas réussi à s'imposer sur une étape, mais que ces équipes ont réussi à faire beaucoup parler d'elles. Et je trouve ça assez positif pour le cyclisme espagnol. Et ça a permis aussi à la Burgos Beache d'avoir un soutien supplémentaire pour les prochaines saisons, puisque le conseil municipal de Burgos, qui sponsorise l'équipe, va investir un peu plus et pourrait être présente. Notamment sur le grand départ de la Vuelta 2021 qui va partir de Burgos. Donc globalement, j'ai trouvé que c'était un bilan extrêmement positif pour les équipes espagnoles et c'était pas le cas depuis longtemps, ça.
Ça va faire du bien, j'imagine, comme tu l'as dit, un cyclisme espagnol qui a du mal vraiment à se relancer. Est-ce que tu penses que du coup ça peut être un des éléments déclencheurs, justement, si on en a, pardon, un peu plus parlé dans les médias, si le public était un petit peu plus au rendez-vous, est-ce que tu penses que ça peut repartir un peu mieux en Espagne, toi qui suis vraiment beaucoup ce pays?
Ouais, c'est possible. Après, par exemple, pour la saison prochaine, on a bien vu qu'une équipe comme Murias, qui a réussi une très bonne saison, au final, a disparu puisque faute de soutien supplémentaire. Mais à l'opposé, on a la Burgos Beache qui a un soutien supplémentaire. On a des équipes qui ont réussi qui vont monter en continental, notamment une grosse structure amateur, donc la Lise Arte qui deviendra la Kern Pharma, qui peut monter en continental professionnel en 2021. Oui, ça, pourquoi pas faire un nouveau boom du cyclisme espagnol les prochaines saisons.
Alors avant de passer au coup de gueule de Grégory, j'avais moi une question à te poser qui n'a pas forcément beaucoup de rapport avec la Vuelta, mais tu parlais de ce qu'a dit Murias. On sait que l'équipe va disparaître et pour ceux qui ne suivent pas vraiment, c'est peut-être un peu flou parce qu'on sait qu'une autre formation espagnole va arriver en Conti Pro, la Fondation Euskadi. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu le pourquoi du comment, pourquoi il n'y a pas de fusion, pourquoi une s'en va et l'autre arrive? Enfin, c'est peut-être un peu confus pour certains de nos suiveurs qui n'ont pas vraiment vu évoluer la situation durant ces dernières semaines.
Oui, déjà, la Fondación Euskadi, en fait, c'est une structure à la base. Et cette équipe, c'est ce qui reste vraiment de la structure où était Euskaltel, où était une équipe comme Orbea, leur réserve. Et donc, c'est vraiment pour ça que les sponsors basques se sont plus appuyés sur la Fondación Euskadi, ils vont supporter plus la Fondación Euskadi comme Orbea, par exemple. Et que Murias, au final, n'a pas eu beaucoup de soutien de la part des sponsors, puisque c'est une équipe comment différente qui a été créée par un ancien directeur sportif de Scatel, mais elle n'avait aucun lien avec l'équipe basque. Et donc, elle est apparue soudainement, Murias, en disant qu'elle était vraiment la seule équipe basque légitime, alors que derrière, à côté, il y avait la Fondation Euskadi, qui est une structure, bah, qui est la structure qui est présente dans le vélo depuis 25 ans. Donc au final, c'est assez normal qu'on retrouve la Fondation Euskadi, et surtout qui a été repris par Mikel Landa. Donc ça, c'est un vrai plus. Et c'est normal qu'on la retrouve à ce niveau-là, alors que d'un côté, Euskadi Murias, entre guillemets, fait les frais de cette rivalité.
Ouais.
Et concernant la fusion, bah, ça a été proposé, mais finalement, il n'y a rien eu au final. Murias et la Fondation Euskadi ne s'entendaient pas vraiment, en fait. C'est plus ça.
D'accord, on parle de fusion, de mercato, ça nous amène à ton coup de gueule, Grégory. Je crois que toi, tu voulais nous parler des transferts et d'un système qui te plaît de moins en moins, c'est ça ?
Oui, c'est un système qui me plaît de moins en moins au niveau des transferts, puisque bah, ça tend à se rapprocher à ce qu'on voit dans certains autres sports. Bon, à commencer par le football, où c'est complètement hors compétition, mais c'est juste pour montrer que ça n'évolue pas forcément dans le bon sens, avec des coureurs qui sont annoncés de plus en plus tôt dans les équipes qu'ils rejoindront l'année prochaine. C'est pas forcément choquant en soi au premier abord, mais avec le nouveau système de points UCI qui a été mis en place et qui compte directement pour les saisons suivantes, ça influe directement sur le reste de l'année sportive. Donc, des coureurs sont annoncés directement dans leur structure de l'année suivante, et ça fait qu'ils finissent par ne plus faire forcément grand-chose sur une saison, ou ne plus être alignés et rentrer en conflit avec leur structure, et plus être alignés sur les courses qui rapportent, voire même sur les points faciles à prendre, pour surtout pas qu'ils marquent de points pour leur équipe de l'année prochaine. Et bah, ouais, je trouve que c'est dommage qu'on en arrive à ce système-là, alors que l'idée des points UCI est très bonne au final, mais ça profite pas du tout.
Ouais. C'est ton avis aussi, Greg ? Tu trouves qu'il y a un petit souci depuis quelques temps par rapport à ce mercato qui devient un petit peu fou sous certains aspects ?
Oui, un petit souci, parce que Grégory parlait de la comparaison avec le foot. On voit aussi, pour prolonger la réflexion, l'apparition aussi des agents avec un rôle de plus en plus grand, qui ont une influence. Et voilà, après, il y a parfois des transferts... où on voit vraiment l'influence et le rôle de l'agent qui va favoriser certaines équipes ou qui va faire, si tu veux prendre tel coureur, ben, il faut que tu prennes l'autre aussi. Voilà, des petites histoires qui arrivent régulièrement dans le football, hein, des petits arrangements qui arrivent régulièrement dans le football, et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus courant aussi maintenant dans le cyclisme. Même l'histoire des contrats... Enfin, à terme, j'ai l'impression qu'on va vers une footballisation, hein, du marché des transferts, avec pourquoi pas des sommes d'argent pour casser les contrats, car on n'en est pas loin du tout, à mon avis, en ce moment, de ça. Quand on voit certains, qu'on voit que c'est la course à avoir les coureurs les plus jeunes possibles, hein, les plus performants possibles, et notamment enfin, les jeunes. En cette année, ça va être un peu particulier. On a eu beaucoup de néo-pro cartonnés, donc c'est un peu la course à celui qui va les signer en premier. Et donc, c'est vrai que c'est une tendance, enfin, c'est peut-être pas la chose la plus agréable que l'on voit en ce moment. C'est pas l'évolution la plus sympa qu'on voit.
Alors, pour finir sur ce sujet, tu parlais des super agents, et c'est vrai que Thomas, il y en a un qui domine un peu les débats, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est Aquadro, qui a la main mise sur quasiment toutes les pépites sud-américaines. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur son rôle ? Enfin, pas forcément sur son rôle, parce que c'est pas forcément très public, entre guillemets, mais ce que tu penses de ses agissements, et on se rappelle, hein, notamment de l'épisode de la Cruz, si tu veux le rappeler.
Oui, mais c'est aussi l'homme qui... Enfin, Giuseppe Aquadro, du coup, c'est lui. C'était lui aussi qui a fait parler de lui l'année dernière avec le transfert de Sosa chez Trek. Finalement, il a terminé chez Ineos. Et c'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à entendre parler de lui. Pourtant, il est dans le milieu depuis le début des années 2000. C'est lui notamment qui avait placé Urán et Rouranos chez Caisse d'Épargne, donc Movistar. Et du coup, il est... Cette année, il est rentré en conflit avec Eusebio Onzue, le manager de la Movistar, Notamment au début, c'était à cause de Carapaz, puisque Hunweh voulait conserver Carapaz alors que Quadro voulait le faire signer chez Ineos. Et donc Carapaz est parti chez Ineos. Et puis finalement, les relations sont dégradées et Quadro a expliqué à Hunweh qu'il n'aurait aucun coureur qui représenterait, qui irait chez Movistar. Donc, c'est-à-dire que tous les coureurs sud-américains et tous les jeunes espagnols. On peut parler de Oscar Rodriguez, Alexander Aramburu, Fernando Barcelo qui devait signer chez Movistar, n'ont pas pu. De la Cruz aussi, c'est le même cas, et finalement il s'est retrouvé chez UAE. Et il y a quelques coureurs qui, pour signer chez Movistar ou pour rester chez Movistar, ont dû rompre leur relation avec Quadro. C'est notamment le cas de Emmanuel Erviti, c'est le cas aussi de Sergio Samitier. Et a priori, ce serait le cas d'Edouard Prades, qui est actuellement chez Movistar. Et donc, Quadro a clairement fait savoir qu'il placerait ses coureurs dans les équipes comme Ineos, comme Astana, et que toutes les équipes qui ne veulent pas de lui, il refuserait de placer ses coureurs. C'est comme ça que je vois la chose. Et moi, je trouve ça assez désolant de voir qu'un agent comme ça peut
faire la pluie et le beau temps, quoi.
Ouais, peut perturber le marché des transferts de cette manière.
C'est un peu désolant, en effet. Alors, pour passer à un autre sujet, puisque maintenant on en a terminé avec vos coups de cœur et des coups de gueule, on va aller sur un truc un peu plus classique, c'est-à-dire le top flop, comme on vous en a donné l'habitude souvent cette année sur Vélo Club. Alors, on va commencer par Grégory, tiens, pourquoi pas. Quel est, toi, ton top coureur de la saison, celui qui a le plus brillé, à ton avis?
Là, je vais prendre le coureur qui est un peu le plus évident, on va dire, le numéro 1 mondial, Primoz Roglic, qui a fait une saison vraiment exceptionnelle, à une exception près, on va dire, le Tour d'Italie, où il n'a pas réussi à remporter, mais franchement, victoire, pour commencer, victoire sur l'UAE Tour, pour commencer tout doucement, victoire Tirreno, victoire Tour de Romandie. Bon, on a eu le Tour d'Italie où il a dû se croire vraiment trop beau, je pense, et il finit finalement que troisième après avoir fait une dernière semaine vraiment dans le dur, clairement. Et il est revenu sans quasiment avoir couru depuis le Giro, il est revenu sur la Vuelta qu'il a remportée de très belle façon, en dominant assez nettement, même s'il a fini en contrôlant les dernières étapes de montagne, mais on aurait pu croire qu'il allait finir sur ce succès de sur cette Vuelta et qu'il aurait pu limite stopper sa saison comme ça. Il en avait déjà fait assez, et pourtant il est quand même allé remporter des semi-classiques italiennes en fin de saison et était toujours là, présent dans le top 10 sur le Tour de Lombardie. Donc une saison avec beaucoup, beaucoup de résultats et une saison pleine à la fois.
Saison assez énorme, c'est vrai, pour Primoz Roglic. Alors toi, Greg, tu as choisi un autre coureur qui a vraiment brillé cette année, c'est le Mathieu Van Der Poel.
Oui, c'est pas non plus un choix très compliqué, hein. C'est pas une surprise. Mathieu Van Der Poel qui... coureur qu'on attend pour beaucoup de raisons, évidemment pour son histoire familiale, hein, ce petit-fils de Polydor, mais aussi parce qu'il brille en cyclocross. C'est toujours un peu une attraction de voir ceux qui dominent dans les autres disciplines tenter sur la route. Hein, finalement, cette polyvalence qui revient maintenant, mais longtemps, c'est quelque chose qu'on ne voyait plus ou pas. Surtout que pour nous, autant en Belgique ou aux Pays-Bas, le cyclocross est très médiatisé, autant pour nous Français, c'est un petit peu une discipline qui reste confidentielle. Et donc, il a encore brillé cette année avec 9 victoires, je crois, alors qu'il a finalement peu de jours de course, hein, une trentaine. Et on est encore curieux de voir ce qu'il va faire l'année prochaine, en sachant qu'il a aussi beaucoup d'objectifs hors cyclisme sur route. Et évidemment, s'il y a une victoire à retenir cette année, c'est l'Amstel, où il revient de nulle part et on pensait que ça allait se jouer entre Fuglsang et Alaphilippe. Et il y a un final, je pense, qu'il a aussi. On parlait d'un Tour de France historique, mais je pense que cette édition de l'Amstel restera aussi
dans les mémoires, ouais.
Historique, voilà, parce que jusqu'à présent, c'est une course que je suivais, mais qui n'a jamais eu de scénario forcément passionnant. Mais il faut reconnaître que là, quand même, c'était très fort ce retour sur la ligne et cette victoire. Je pense que voilà, là aussi, ça restera dans les souvenirs de beaucoup de suiveurs.
Alors toi, Thomas, ton top, c'est un autre vainqueur de grand tour, c'est Richard Carapaz.
Oui, vainqueur du Tour d'Italie cette année, qui est rentré dans l'histoire du sport équatorien. Donc j'étais assez surpris, moi, que justement beaucoup de personnes soient étonnées de sa victoire. Dès novembre 2018, il avait annoncé comme objectif la victoire sur le Tour d'Italie, avec un programme assez similaire à celui qu'il avait fait début 2018, où il avait après bien marché sur le Tour d'Italie avec une victoire d'étape et une quatrième place au général. Donc sur ce Tour d'Italie, il est venu avec la forme qu'il avait en 2018 justement. Et je trouve qu'il a parfaitement géré la course, enfin plus globalement aussi la Movistar pour une fois, a parfaitement géré le Tour d'Italie, alors que c'était pas, voilà, avec Landa, avec Carapaz, c'était pas forcément facile. Mais du coup, non, Carapaz, pour moi, c'est imposé en patron. Avec deux victoires d'étape. Il a parfaitement géré la course. On l'a bien vu sur l'étape du Mortirolo, où la Movistar se fait attaquer par Nibali. Et Carapaz gère tranquillement pour revenir sur Nibali. Son attaque, il a tenté de loin. Et ça fait plaisir de voir qu'un coureur qui tente de loin réussit à s'imposer de cette manière. Et donc pour moi, c'est ce coureur. Mon gros top de cette année.
Alors, messieurs, si vous le voulez bien, on va passer au flop pour terminer l'émission. Toi, Grégory, tu as ciblé une équipe qui a un peu adopté la loose attitude cette année, c'est la dimension Nathan.
Non, perdu, c'était Greg.
Ah, c'était Greg, pardon, je me perds dans mes fiches.
Et on peut en parler, il n'y a pas de
On
souci.
peut en parler, mais toi, c'était un peu plus, je crois, une autre formation qui a fait parler d'elle, c'est la
Cabrio
Katusha.
aussi, voilà.
C'était la Katusha. Et oui, effectivement, la Katusha qui a très 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 peu brillé, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec, en fait, je pense que très rapidement, il y a eu des mauvais résultats et qu'il y a eu une dynamique, une spirale négative qui s'est communiquée à toute l'équipe, à l'exception peut-être de Nils Polite qui a fait des belles classiques de printemps et qui était présent sur plus ou moins toute la saison dans son registre, mais autrement, les résultats étaient particulièrement moroses, très 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 peu de victoires, même y compris en World Tour, il y a quasiment rien. On a la victoire d'étape d'Ilnur Zakarin sur le Tour d'Italie. Voilà la victoire la plus notable de l'année, alors que ce Zakarin lui-même est carrément sous-performance par rapport aux années d'avant. Mais ouais, une année vraiment très très faible avec l'annonce assez tôt finalement que la Katusha n'allait pas poursuivre en l'état l'année suivante. Donc les coureurs ont un peu baissé les bras.
Oui, on avait
On a
l'impression qu'ils
eu.
étaient complètement démobilisés aussi à partir du Tour de France au final, non?
Ouais, c'est ça. Très peu de résultats, alors que au contraire, certains auraient pu en profiter pour essayer de se mettre en évidence pour attirer l'attention de nouveaux recruteurs. Mais non, on n'a pas vu grand-chose. Et puis forcément, il faut parler aussi de l'épisode Marcel Kittel qui a été vraiment dans le dur au niveau du sprint et qui a fait un break puis a annoncé la fin de sa carrière. Il est sorti un peu par la petite porte. Et puis on a eu aussi un recrutement pas forcément terrible. Je ne sais pas si c'était des paris qui ont raté ou autre chose, mais recrutement pas forcément génial avec les vieillissants Daniel Navarro qui n'a pas apporté grand-chose et qui s'est souvent blessé d'ailleurs. Bon, encore le Russe Strakhov qui avait fait une bonne saison chez Gazprom mais qui a été complètement inexistant cette année. D'ailleurs, les Russes qui ont complètement disparu de la circulation dans la structure qui était russe à la base. Et cette équipe qui a été rachetée par Israel Cycling Academy pour l'année prochaine. Et ce sera peut-être de meilleurs résultats.
Espérons pour eux. Alors, je vais essayer de reprendre mes fiches comme il faut. Greg, c'est bien Dimension Data pour toi, c'est ça?
Voilà, Dimension Data, une autre équipe au World Tour, bien en difficulté cette année. Hein, que voilà, ben, le World Tour, c'est pas seulement Ineos ou Jumbo-Visma, c'est aussi des équipes comme ça à la peine, avec encore très peu de victoires. Alors, il y a quelques victoires cette année pour Boissonhagen ou Nizzolo, mais ça reste quand même très faible hein, pour une équipe comme celle-là. Et puis surtout, évidemment, celui qui fait de peine à voir, hein, c'est Cavendish, hein, qui doit en être à, peut-être, je sais pas, être, il doit être pas loin des 50 victoires sur les grands tours, mais qu'on a vu régulièrement à la peine cette année, très souvent pas placé. On l'a vu aussi, enfin, beaucoup, il y a eu beaucoup de soucis de chute, hein, mais régulièrement, voilà, on ne voit plus aux avant-postes du classement. Et donc, voilà, ça fait partie, voilà, de ces équipes en grande difficulté. Et je pense que Cavendish est un peu le symbole de cette année compliquée pour Dimension Data.
Mais est-ce qu'il n'a pas peur de sprinter Cavendish maintenant? On a l'impression. Est-ce qu'il a
Ah,
encore
je
envie de
pense
prendre les risques
que
et de...
c'est ce qui semble, hein, parce qu'on a parlé de Kittel tout à l'heure, mais le sprint, hein, c'est pas mal, c'est dans les jambes, c'est aussi dans la tête. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est cassé dans la tête de ses coureurs, parfois au bout d'un moment? Est-ce que après il a 34 ans, alors que Kittel est jeune, lui, il y a peut-être aussi l'âge, mais c'est vrai que tu as raison, hein, le sprint, c'est beaucoup dans la tête, faut vouloir y aller, hein, rouler à 60-70 km/h dans les derniers hectomètres d'une étape ou d'une course, ben faut vouloir. Faut, à un moment, faut débrancher le cerveau, et peut-être que Cavendish, il a plus envie de débrancher le cerveau.
C'est bien possible. Alors pour conclure du coup sur nos flops, Thomas, toi tu voulais nous parler de la Colombie, mais pas en flop hein, forcément parce que les coureurs ont plutôt assez brillé. C'était un autre angle avec lequel tu voulais aborder le sujet.
Oui, c'est plus un coup de gueule. C'est une situation qui perdure malheureusement en Colombie et plus globalement en Amérique du Sud. C'est le dopage et je trouve que ça s'illustre parfaitement avec les cas qu'on a eu cette année avec la Manzana Postobón. Donc pour rappel, il y a eu deux cas de dopage. Wilmar Paredes et Juan José Amador, qui n'a aucun lien avec le coureur de la Movistar. Et l'équipe a été suspendue dans un premier temps par l'UCI, puis finalement le propriétaire de la licence s'est retiré et de ce fait l'équipe a arrêté. Et donc le dopage en Colombie, c'est un sujet qui est assez tabou là-bas. On n'en parle pas vraiment pas beaucoup en France. Il y a déjà beaucoup de coureurs, des anciens coureurs, qui ont évoqué la situation colombienne du dopage en Colombie. Ils expliquent que c'est une mafia là-bas, entre coureurs, entre directeurs sportifs, voire même avec la fédération colombienne. Que le dopage est banal, que ça s'inscrit dans le métier, entre guillemets. Et j'ai retrouvé des fiches, des résultats, pardon. Depuis 2010, on a 40 coureurs colombiens ou cyclistes colombiens qui ont été suspendus pour dopage, dont 13 depuis 2 ans, donc 2018-2019. Et je me demande vraiment ce qu'on attend pour nettoyer, j'ai envie de dire, entre guillemets, ce pays-là, puisque c'est le deuxième pays où il y a plus de cas de dopage derrière le Costa Rica ces dernières années. Et j'ai l'impression que ouais, c'est une situation qui est sans fin, qui perdure, que personne ne fait rien, qu'on laisse passer, que l'UCI se dit bon, c'est local, c'est bon, tant que ça touche pas les plus gros coureurs, on reste tranquille. Pourtant, cette année, on a bien vu qu'un coureur World Tour colombien a été suspendu, c'est Pantano, qui a arrêté sa carrière.
Pour se lancer en
Et oui,
politique, je crois, non? C'est ça?
oui, et avec.
Avec le soutien de certains de ses collègues.
Ses coureurs. Et malheureusement, ça n'a pas marché pour lui. Du coup,
Heureusement.
oui, comme on veut.
Parce qu'on ne sait pas qui y avait en face, hein, on va dire.
mais du coup, oui, c'est une situation ouais, qui m'agace énormément. Puisque, voilà, voilà, on a affaire à une mafia. Personne n'en parle, personne ne veut en parler. Par exemple, dès qu'on évoque un coureur ou un acteur assez sulfureux du cyclisme du milieu colombien, on évite de répondre. Donc,
Ouais.
oui.
Mais est-ce que pour toi, Thomas, c'est pas un de ces effets pervers, Grégory parlait du mercato, mais de cette course aux pépites, justement, où il y a peut-être des jeunes coureurs qui sont capables un peu de tout faire, ou en tout cas les entourages qui poussent peut-être dans une certaine direction, Au final, les mecs, ils se disent, bah tant pis, au pire, je me fais choper, et puis au mieux, j'ai un contrat en World Tour, quoi.
Oui, c'est exactement ça, c'est ce que j'avais déjà lu. C'est que ouais, beaucoup de coureurs évoquent la pression de la part des directeurs sportifs pour performer très rapidement, oui.
Et je
Et
crois
ouais.
aussi, enfin, tu me dis si je me trompe, hein, parce que je suis pas sûr de mes sources, mais je crois avoir lu que par rapport au niveau de vie du pays, les primes de course étaient aussi assez élevées. Est-ce que c'est le cas ou pas?
Ça, j'en ai aucune idée, honnêtement.
Il me
Ouais,
semblait
si,
avoir vu que les
c'est le
primes
cas, c'est le cas.
en, enfin, pour des
C'est le
courses
cas sur
amateurs,
des.
Grégory, vas-y, tu voulais enchaîner, il me
Oui,
semble que tu as lu ça
sur
aussi.
des courses amateurs en Colombie, même des petites courses, les primes sont très 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 alléchantes pour les coureurs locaux. C'est largement supérieur à ce qu'on voyait à l'époque, enfin, à l'époque où le Tour de Colombie était encore au niveau UCI. D'ailleurs, c'est pour Oui,
ça que
non.
toutes les courses colombiennes ne sont plus au niveau UCI. C'est pour qu'elles puissent faire un peu ce qu'elles ont envie, et les primes sont très alléchantes, et bah c'est ce qui pousse pas mal de jeunes Colombiens à passer par le dopage, puisque certains sont l'espoir de toute leur famille, tout simplement. Ils font vivre toute leur famille de par leur métier, et ils peuvent être facilement poussés à tricher. Alors messieurs, pour finir sur le sujet, est-ce que vous avez d'autres top ou flop? Hein, je rappelle d'abord à nos auditeurs qu'on n'a pas parlé des jeunes pépites parce qu'on a prévu en fait une émission sur le sujet pour évoquer les Pogačar, Evenepoel, etc. D'autres choses à rajouter, messieurs, sur vos top flop?
Non, bon, on peut
Non?
parler du vainqueur du Tour de France, forcément, Egan Bernal. On a parlé de Van der Poel, forcément. Wout Van Aert aussi a fait une belle saison. La saison d'Alaphilippe,
La saison de Julien Alaphilippe aussi, ouais.
c'est qui est ben, excellente. J'ai rien à dire dessus. Sur le Tour de France, il a fait un énorme Tour de France. Vainqueur de Milan-San Remo. Voilà. Et vainqueur de la Flèche Wallonne.
Et la
Donc,
question
du coup,
piège pour finir, Thibaut Pinot, on le met dans les tops ou dans les flops?
dans les tops, pour moi, pour ma part.
Les gars,
Ah,
je vous
oui,
sens
parce que.
hésitant
Bah,
Et...
top émotionnel, on va dire. Après, forcément, sur le résultat brut, je peux pas forcément me dire que c'est du top.
Après, il a montré quand même qu'il pouvait gagner le tour, alors que beaucoup en doutaient auparavant.
Ouais, moi je le mettrais en top aussi, mais pas enfin, pour les émotions, comme disait Grégory, c'est vrai qu'il procurait quelque chose qui n'avait pas existé depuis longtemps. Enfin bref, messieurs, je pense qu'on peut se dire au revoir et on vous souhaite donc à tous une bonne soirée et on vous dit à bientôt.
À bientôt.
Salut à
Salut.
tous.